VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. RDC, deux leaders de premier plan de l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, réclament une transition sans le président Joseph Kabila pour préparer des élections en République démocratique du Congo. Dans leur communiqué, M. Tshisekedi et Katumbi pointent du doigt la responsabilité du président Kabila dans le non-respect de la constitution congolaise et de l'accord du 31 décembre 2016 qui prévoyait des élections d'ici décembre 2017. Par ailleurs, les Nations Unies se penchent aujourd'hui à New York sur l'impasse politique en RDC. Prévue en marge de l'Assemblée générale, la réunion onusienne d'après l'AFP doit se tenir à huis clos sous la présidence du secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, avec pour objectif d'ouvrir la voie à des élections crédibles en RDC. L'initiative entend favoriser une meilleure coordination des efforts internationaux, régionaux et sous-régionaux pour la mise en place de l'accord du 31 décembre 2016. RDC toujours, le président congolais Joseph Kabila est depuis lundi dans la région du Kasaï en proie à des violences depuis un an. Le chef de l'État congolais va participer à un forum pour la paix critiqué par l'opposition. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La rencontre du Kasaï est un mini-congrès du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, au pouvoir RDC. Joseph Kabila doit présider aujourd'hui la séance d'ouverture de ce forum, prévu pendant deux jours à Kananga, la principale ville du Kasaï, selon les organisateurs. L'opposition dans la province a été conviée à la réunion, mais le député Claudel Lubaya a décliné l'invitation à ce rendez-vous selon l'AFP. Eli Mputu, un porte-parole du rassemblement de l'opposition au Kasaï, a pour sa part exigé la présence du gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé, à ses assises. Ce dernier, visé par une enquête administrative après l'éclatement des violences, est retenu à Kinshasa depuis le mois de février. Ancien havre de paix comparé aux turbulences qui s'écoulent depuis 20 ans, l'est du pays, le Kasaï s'est embrasé il y a un an après la mort en août 2016 du chef coutumier Kamuina Nsapu, qui s'était soulevé contre le pouvoir de Kinshasa. Ces violences entre forces de sécurité et milice Kamuina Nsapu ont fait plus de 3000 morts selon l'Église catholique et 1,4 million de déplacés selon les Nations Unies. Deux experts de l'ONU y ont été tués en mars alors qu'ils enquêtaient sur ces violences.
Assemblée générale de l'ONU à New York, les présidents français et rwandais Emmanuel Macron et Paul Kagame se sont entretenus à New York lundi en marge de l'Assemblée générale. Une rencontre peu courante entre les dirigeants de deux pays dont les relations sont empoisonnées par le génocide rwandais de 1994. La présidence rwandaise a indiqué dans un tweet que les deux leaders ont discuté de collaboration sur les questions d'intérêt mutuel, dont la paix et la sécurité en Afrique. Le Rwanda accuse depuis des années la France, qui soutenait à l'époque le régime extrémiste hutu-rwandais, à l'origine du génocide de 1994, de participation aux massacres qui ont fait en à peine 100 jours, à partir d'avril 1994, environ 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité tutsi. Nations Unies toujours. Coup d'envoi ce mardi du débat annuel de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. 193 chefs d'État et de gouvernement y sont attendus. C'est la première fois que le président américain Donald Trump prend part à la grande messe onusienne sur son agenda la réforme de l'ONU. Jacques Aristide.
Donald Trump a déjà donné le ton hier, à la veille de sa toute première intervention à la tribune des Nations Unies. Pour lui, l'ONU doit se concentrer plus sur les gens et moins sur la bureaucratie. C'était lors de l'adoption par 126 pays d'une déclaration politique en 10 points en faveur de la réforme de l'organisation. Il s'agit d'une initiative américaine. Réaction du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a promis que son organisation allait faire davantage pour les peuples et moins sur les procédures. L'objectif précisé dans la déclaration finale est de rendre plus efficace et performante l'organisation souvent taxée de lourdeurs administratives coûteuses. Le président américain veut voir les coûts de l'ONU fortement réduits. Washington est son premier contributeur financier, assurant notamment une bonne partie des 7,3 milliards de dollars du budget des opérations de paix. Prêt à faire des d'économie, Antonio Guterres, a toutefois mis en garde contre le risque de saper l'efficacité des missions de paix menées pour la plupart en Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, le G5 Sahel est au cœur du débat, alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir l'opérationnalisation de cette force. De nombreux Maliens ne cachent pas leurs inquiétudes face au G5 Sahel, leur crainte primordiale, la peur qu'elle ne devienne finalement comme toutes les autres forces en présence au Mali. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le commandement de la force du G5 Sahel est désormais opérationnel au Mali, plus précisément à Mopti Sévaré. Les chefs d'état-major des différents pays ont même fait leur première réunion sur le déploiement des 5000 hommes attendus. Le professeur Lamine Sandy Aïdara espère que cette force va répondre aux attentes des Maliens.
Le G5, c'est bienvenu, sous réserve qu'il réponde à nos attentes. Nos attentes, c'est quoi? C'est arriver à éliminer définitivement les djihadistes au nord et au centre du pays.
L'économiste Dao trouve que le G5 Sahel est un regroupement hétérogène avec des pays qui n'ont pas les mêmes perceptions dans la lutte contre le terrorisme. Le comptable explique.
L'intérêt de ces pays-là, c'est les fils des pays qui sont en train de s'aimer les pagailles par-ci par-là. On va essayer de voir par rapport à ces fils des pays, de les réunir et de communiquer avec ces gens-là et de faire un pourparler. Ces 5 pays, on peut dire que ça fait partie des pays les plus pauvres du monde. Pour dire qu'il faut prendre leur G5 en charge, ça serait un peu difficile. Mais cette fois-ci, on a entendu parler d'une réunion au niveau des États-Unis pour les réunions des Nations Unies pour pouvoir chercher des appuis. Donc, est-ce que ça, c'est nécessaire encore? Est-ce que c'est réunir entre nous et dialoguer entre nous?
La force conjointe du G5 Sahel vient s'ajouter au casque bleu de l'AMINUSMA et à la force Barkhane. Tchekoro Keïta, administrateur de l'action sociale.
Malgré la présence du Barkhane et de l'AMINUSMA, je pense que cette force aura aussi son rôle à jouer parce que ce sont ces éléments-là qui vont aller combattre les terroristes. C'est une initiative à saluer, vu que actuellement combattre le terrorisme, c'est pas facile. Surtout, un seul pays ne peut pas faire face au terrorisme. Il faut la conjugaison des efforts. Moi, je pense qu'en tant que Malien, moi, je suis optimiste. Je pense que cette nouvelle force va arriver à bout de ses missions.
En tout cas, le commandement des hommes de la force conjointe est confié au Mali, à travers le général Didier Dako.
Moi, je ne partage pas ce point de vue. Le commandement n'aurait dû pas arriver au Mali. Je n'ai rien contre le général Didier Dako, mais je crois que l'élégance voudrait que ce soit un pays qui ne soit pas concerné directement par cette histoire. Le commandement, j'ai peur que ce ne soit pas le même commandement quand il s'agit du Mali, quoi. Il faut vraiment donner une forme et un contenu à ce commandement. Que les forces soient dans les conditions et que les ordres soient respectés et que la discipline soit de rigueur.
Une réunion des pays du G5 Sahel est prévue à New York en marge de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale. Boubacar Keïta est sur place. Il sera le porte-parole des pays du G5 Sahel en sa qualité de président en exercice de cette organisation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Kenya, le système électronique devant être utilisé pour la nouvelle élection présidentielle kenyane prévue le 17 octobre ne sera pas prêt pour cette date. C'est ce qu'a affirmé ce lundi la société française Otemorfo en charge du fichier électoral kenyan. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La société française indique qu'elle a gelé et effectué une sauvegarde du système de transmission des résultats et des kits biométriques après l'invalidation de la présidentielle. En conséquence, le système ainsi que les 45 000 tablettes biométriques utilisées lors du scrutin du 8 août doivent faire l'objet d'une nouvelle installation en vue du nouveau scrutin, explique Otemorfo. Elle a ajouté que cela représente une masse importante de travail qui ne peut être achevée d'ici le 17 octobre. La société précise avoir écrit à la commission électorale kenyane pour l'en informer. Otemorfo a répété hier qu'un audit interne n'a montré aucune trace d'activité suspecte. Elle a également exprimé sa volonté de participer à un audit externe, rappelant que le jugement détaillé de la Cour suprême, qui doit préciser les irrégularités ayant entaché le scrutin, n'est pas encore connu. L'opposant Raila Odinga affirme, lui, que le système de transmission a été piraté pour gonfler les scores du président sortant Uhuru Kenyatta.
massacre des Rohingyas en Birmanie. Pour terminer, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a assuré ce mardi que la Birmanie était prête à organiser le retour des plus de 410 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh voisin, se disant profondément désolé pour les civils qui se sont retrouvés pris au piège de la crise. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.